Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU en colère ce jeudi à Kinshasa. Ils protestaient contre la hausse des frais académiques, passés de 350$ à plus de $600 américains. Et puis ce plaidoyer de la coordination de la société civile Force Vive de la ville de Goma au Nord Kivu. Devant les menaces de la rébellion du M23, la société civile demande au gouvernement congolais d'améliorer la situation sécuritaire, sociale et humanitaire de la ville de Goma. L'invité de ce journal est la responsable du programme national de la santé mentale en Ituri. Docteur Sephora Nyomi parle de la campagne de sensibilisation démarrée depuis lundi dernier à Bounia sur l'épilepsie et la schizophrénie. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tension depuis tôt ce matin sur l'avenue de la Libération, ex 24 novembre, ici à Kinshasa. Les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme en colère. Ils protestaient contre la hausse des frais académiques. Selon Maurice Mukandai, président national des étudiants du Congo, cette situation est consécutive à la majoration des frais académiques qui passent de 350 à plus de $600 américains. Avant d'ajouter que dans le briefing organisé récemment par le ministre de la Communication immédiate à la RTNC, le chef de l'État a plaidé pour la valorisation de la monnaie locale. Suivez Maurice Mukandai, président national des étudiants du Congo, joint par Blaise Sindani Kambala.
Nos camarades de l'ISAU qui ont revendiqué l'augmentation des frais académiques. Et comme ça, les frais ont été affichés hier par le membre du comité de gestion. Ce matin, les étudiants ont jugé bon de revendiquer parce que c'est inadmissible de quitter des $350 et de payer maintenant au-delà de 650 quelques dollars.
Qu'est-ce qui se passe présentement?
Moi, je suis actuellement sur place au sein de l'ISAU. Nous sommes avec les étudiants parce que la police a très mal comporté et on a arrêté quelques nos collègues au-delà de 15 étudiants et étudiantes qui sont actuellement au niveau de l'IPCRIM. Nous étions déjà là pour les faire libérer et nous sommes rentrés maintenant au sein de l'Institut pour calmer les autres et puis voir maintenant comment négocier avec les autorités.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Nous allons demander l'intervention du ministre de tutelle lui-même et le chef de l'État parce que déjà il y a un petit problème. Le fait aussi de fixer les frais académiques en dollars, vous allez remarquer que c'est dans plus ou moins 3 ou 4 universités récemment. Il y avait des problèmes à l'ISTA. Au Congo central, il y a des problèmes. Dans les Maniema, il y a eu des problèmes. C'est pour dire que c'est un peu généralisé.
À Goma, le mot d'ordre d'arrêt des activités économiques lancé par les opérateurs économiques de la ville est à son deuxième jour ce jeudi. La quasi-totalité des boutiques, notamment dans les centres commerciaux des Biriri, n'ont pas ouvert leurs portes. Par cette occasion, les opérateurs économiques dénoncent, selon eux, diverses tracasseries de la part des services étatiques, alors que la province est en guerre. Denis Loukesso pour plus de détails.
La multiplicité des taxes, la surtaxation et autres tracasseries de certains services étatiques dont la DGI, voilà ce que dénoncent les opérateurs économiques. Ils déplorent également le fait que les micro et petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais soient assujetties à la collecte de la TVA, ce qui, selon eux, n'est pas conforme au Code des impôts de 2023. Tony Kitsandole, président de la Fédération des commerces pour la promotion des petites et moyennes entreprises.
Et actuellement, on est en train d'assujettir les gens à la TVA. À cette période où l'Est du Congo est en turbulence, curieusement, la DGI a dit que c'est le Nord Kivu qui est une province pilote pour commencer à récolter la TVA parmi les entreprises de petite taille. Alors que la TVA ne concerne pas ces entreprises, ça ne peut pas se faire si c'est la loi qui nous réglemente tous, qu'on suit ce qui est dit dans la loi pour permettre à ce que les entreprises ne soient pas étouffées en République démocratique du Congo. Une correspondance du directeur général de la DGI ne soit pas au-dessus d'une loi qui réglemente la TVA.
Pas de réaction jusqu'ici des autorités en province. D'après Tony Kitsa, ces mouvements pourraient se durcir si leurs cris d'alarme ne trouvent pas gain de cause. Il en appelle à l'arbitrage du ministère de l'Économie et des Finances. Goma, Denis Loukesso, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore la coordination de la société civile Force Vive de la ville de Goma demande au gouvernement congolais d'améliorer la situation sécuritaire, sociale et humanitaire de la ville. C'est en particulier en ce moment où la ville fait face aux menaces de la rébellion d'Yan-23. Le président de cette structure dit qu'un mémorandum a été déposé cette semaine auprès des dirigeants du pays par une mission qui l'a conduit lui-même à ce sujet. Dans cette correspondance, cette structure élève au moins 18 défis à la stabilité de la ville avant de formuler un plaidoyer pour une solution. Marion Ngavo, joint par Bernard Nyangui.
Dans notre mission de plaidoyer, la société civile a visité plusieurs institutions nationales pour leur signifier les inquiétudes de la population, à savoir les combats à la porte de la ville de Goma, des personnes blessées dans la province du Nord Kivu, des déplacements massifs des populations et non assistés, l'insécurité et le largage des bombes dans les quartiers de la ville de Goma, l'interdiction des motards de travailler à 18 heures, l'identification monnayée des voitures à vitres teintées, les arrestations arbitraires, la circulation intense et incontrôlée des personnes en armes dans certains quartiers de la ville de Goma. Malgré les efforts menés sur terrain par les forces de défense, la situation reste intenable. C'est pourquoi la société civile demande au gouvernement d'organiser des traques systématiques vers les rebelles terroristes du M23, AFC, RDF, UPDF et ADF et changer le commandement actuel pour le retour des populations dans leurs villages, de lever l'état de siège, remettre la gestion aux civils et responsabiliser les militaires pour les opérations de combat.
Et toujours au Nord Kivu, la situation est restée tendue et volatile ce jeudi autour de la cité de Sake après des violents combats hier mercredi entre les rebelles du M23 et les FARDC et leurs alliés. Selon plusieurs sources sur place, malgré une accalmie précaire, au moins deux autres bombes larguées par les rebelles ont ciblé dans la matinée une position militaire en pleine cité de Sake. Des détails avec Bernard Ndangyangi.
C'est autour de 7 heures locales ce jeudi que deux tirs de mortier présumés largués par les rebelles depuis la colline de Vunano qu'ils occupent toujours près de Sake ont ciblé une position militaire des FARDC et combattants locaux sur la colline Macha. L'autre est tombé près d'une maison des civils dans le quartier Mayuta au centre de la cité. Aucun bilan disponible jusqu'à présent, surtout que toute la cité de Sake reste vide de ses habitants depuis quelques semaines. Par ailleurs, si une accalmie précaire est rapportée à Sake ce jeudi matin, la situation reste volatile dans la zone. Certains de nos sources affirment que toutes les forces belligérantes sont en alerte et renforcent toujours leur position. Rappelons que presque toute la journée d'hier mercredi, la zone de Sake a été le théâtre de violents combats localisés autour de Kanvé, Vunano, Mwambaliro sur l'axe ouest de Sake-Kiroche ainsi qu'autour de Rutoboko et du site Trois Antennes au nord de Sake. Lors de ces combats, quelques bombes larguées par les rebelles sont tombées dans et autour du site de la base de la force de la SADC à Mubambiro. Certaines sources parlent d'un bilan de 3 morts parmi les civils près de cette base, soit 2 femmes et 1 enfant, alors qu'aucun bilan n'est encore disponible du côté militaire. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
En Ituri, l'orphelinat Grâce Divine des Sœurs de la Charité Maternelle dans les territoires d'Arou éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Cette structure héberge actuellement 30 enfants, dont 10 bébés, des victimes des conflits armés notamment dans les territoires de Mahagi ainsi qu'au Soudan du Sud voisin. Ces enfants manquent de nourriture et de lait, ce qui affecte leur croissance, s'indignent les responsables de cet orphelinat qui appelle à l'aide. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ces enfants viennent de Djalassiga ou Ngote dans le territoire de Mahagi ainsi que d'autres localités qui partagent la limite avec le territoire des Djougou, théâtre des conflits armés. Certains sont abandonnés par leurs parents à Arou Centre à la suite des conditions de vie difficiles. D'autres proviennent du Soudan du Sud et même de l'Ouganda, deux pays frontaliers avec le territoire d'Arou en RDC. Selon la responsable de cette structure, ces enfants manquent de nourriture et de lait. Une situation qui les expose aux maladies ainsi qu'à des carences alimentaires. La sœur Catherine Massia s'inquiète de l'augmentation des orphelins dans cette structure qui par ailleurs fait face à d'autres défis dont le manque d'espace d'hébergement et des jeux pour les enfants.
Le logement des enfants est petit. Il y a 4 chambres et une petite cuisine. Le nombre augmente, l'espace des jeux il n'y en a pas. On a un peu de difficulté en tout cas pour l'encadrement des enfants. Les enfants sont venus dans des familles d'accueil. Il y a les cigales vers Imbokolo, il y a des déplacés qui sont venus du côté des Soudans au Congo. Il y a aussi les enfants qui sont même sur place ici, parce que les enfants abandonnés qu'on a retrouvés sont ici sur place à Aro. On n'a pas assez de moyens pour leurs besoins.
Signalons que c'est depuis 6 mois que l'orphelinat Grâce Divine des Sœurs de la Charité Maternelle a ouvert ses portes à Aro Centre. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province du Olomami, le chef de la chefferie de Kayumba, dans le territoire de Malembankoulou, sort de son silence. Le chef coutumier incriminé rejette toutes les accusations portées contre lui par l'administrateur du territoire. D'après André Sengawiba, il est issu des consultations coutumières organisées en septembre 2021 et qu'il avait été entronisé selon les traditions et coutumes. Au sujet des incidents de dimanche dernier qui ont causé mort d'homme, le grand chef André Sengawiba apporte les précisions suivantes au micro de Jean Gandou.
Par rapport aux incidents malheureux, quand ces gens sont arrivés à Bangwe, ils ont déclaré que c'est l'administrateur du territoire qui les avait envoyés pour que Katengu s'installe de force à Bangwe et qu'il a installé Tambo de force aussi à Chel. Lui-même, quand il les a entendus hier, ils lui ont dit que ni les chefs de chefferie, ni l'armée, ni la police n'étaient impliqués dans ces incidents. Alors il ne faudrait pas qu'ils fassent une fuite en avant. C'est vraiment un manque de probité morale.
Même les personnes qui ont été auditionnées par l'administrateur en présence des membres du conseil, ils ont déclaré que les incidents ont eu lieu entre les partisans de Katengu Ntambwe d'un côté et de Kiar, le chef de groupement Bangwe, et qui est là chef de groupement Chele. Il n'y a aucun militaire, aucun policier qui n'a été impliqué dans ça. La preuve, c'est que les blessés qui ont été enregistrés l'ont été certains par coup et les autres, on a retrouvé sous la chair des impacts de calibre 12.
Campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Maniema. Plus de 600 000 enfants dans les 18 zones de santé qui comptent la province sont concernés par cette opération. Après son lancement hier mercredi, les équipes ont fait le porte-à-porte jeudi pour vacciner tous les enfants âgés de 0 à 5 à 9 mois. Florence Kizalunga, reportage.
Chaque enfant de moins de 5 ans reçoit 2 gouttes de vaccin VPO. Cette femme manifeste sa joie après avoir fait vacciner son enfant.
Vraiment, je suis contente de faire vacciner mon enfant pour le protéger contre la polio.
Cette autre femme invite les autres à suivre son exemple.
Mon enfant vient d'être vacciné, chère maman, faites aussi comme moi.
Pour sa part, le chef de division de la santé plaide pour la réussite de cette opération. Il invite par ailleurs chaque partie à une implication accrue.
J'exhorte donc, d'une part, les personnes de la santé, les vaccinateurs, les mobilisateurs, chacun à ce qui les concerne, à s'impliquer pour la réussite des activités. À tous les parents d'accueillir les vaccinateurs.
Tous les partenaires restent mobilisés pour mettre fin à la présence de la polio dans le Maniema.
Nous sollicitons donc l'engagement de tous pour interrompre cette transmission de poliovirus dérivé. Au nom de tous les partenaires, nous réitérons ici notre engagement commun à continuer d'appuyer la province du Maniema pour l'éradication de la poliomyélite et la lutte contre les autres maladies à prévention vaccinale.
Rappelons que cette campagne de vaccination contre la polio va durer 3 jours, soit du 28 au 30 mars en cours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis la régie des eaux, direction régionale du Sud Kivu, a organisé hier mercredi une journée porte ouverte dans son usine de captage et de traitement d'eau de Murundu dans le territoire de Kabare. Événement organisé dans le but d'échanger sur la situation de la desserte en eau, avancées, défis et perspectives concernant l'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu. Rachel Kessembangou, reportage.
L'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux Murundu dans le territoire de Kabare existe depuis 1950, conçue pour desservir 6 millions d'habitants de la ville de Bukavu. À ce jour, cette usine dessert à peu près 20 millions d'habitants avec une capacité de production de 25 à 30 000 mètres cubes par jour. C'est cette usine qui alimente à 80% la population de Bukavu en eau potable. Beaucoup de défis sont à relever par la Régie des eaux pour assurer la desserte dans la ville. 1,5 million de dollars, c'est le montant dont a besoin la Régie des eaux pour résoudre la pénurie d'eau dans la ville de Bukavu en mettant en place des projets pour pallier les problèmes auxquels elle est confrontée. Ignace Ilunga, directeur régional Régie des eaux Sud-Kivu.
Si nous avons un petit million et demi de dollars, nous pouvons répondre à tous ces besoins. Et ces petits millions et demi de dollars se trouvent dans la population, auprès de nos consommateurs qui ne payent pas assez de factures. Ça se trouve auprès de l'État qui doit aussi payer ses factures, qui ne les paye pas à la hauteur que nous souhaitons, auprès des entités territoriales décentralisées, mais ça se trouve aussi auprès des partenaires financiers.
Cette journée porte ouverte de la Régie des eaux a eu lieu dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque année le 22 mars. De retour de Murundu dans le territoire de Kabare, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Togo, la tension politique monte après l'adoption de la nouvelle constitution. La conférence de presse organisée par les partis d'opposition et des groupes de la société civile a été interrompue par les gendarmes hier mercredi, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution.
L'invité
de ce journal est la responsable du programme national de la santé mentale en Ituri. Docteur Sephora Nyomi parle de la campagne de sensibilisation démarrée depuis lundi à Bounia sur l'épilepsie et la schizophrénie. Docteur Sephora Nyomi est interrogé par Martial Kizabiamungu.
Madame Sephora Nyomi, bonjour.
Bonjour.
L'épilepsie et la schizophrénie sont deux maladies différentes. Pourquoi vous organisez les activités de sensibilisation les mêmes jours?
Normalement, l'épilepsie est célébrée le 13 février de chaque année. Et la schizophrénie, pour cette année 2024, a été célébrée du 16 au 23 mars. Nous avons préféré fusionner les deux activités, ou bien les deux célébrations, par manque de moyens financiers.
Alors, c'est quoi l'épilepsie?
L'épilepsie, c'est un trouble neurologique qui se manifeste par des crises non provoquées, récurrentes dues à une activité électrique anormale au niveau du cerveau. Tandis que la schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui se caractérise par la perte de contact avec la réalité, les hallucinations ou fausses perceptions, les idées délirantes ou fausses convictions, les comportements et paroles désorganisés, des troubles de l'affectivité, les désorientations du raisonnement et de la capacité à résoudre le problème, mais aussi ça se caractérise par le dysfonctionnement social et professionnel.
Alors, voudriez-vous nous brosser un peu l'état des lieux de cette maladie, notamment l'épilepsie dans la province de l'Ituri et quelques statistiques que vous avez?
Oui, sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, nous n'avons pas de données chiffrées avec précision parce que la plupart de ces pathologies ne sont pas prises en charge, dans nos structures. Les études sont en cours à notre niveau du PNSM pour nous permettre de savoir un peu la prévalence de ces différentes maladies dans notre province de l'Ituri.
C'est beaucoup plus répertorié dans quelles zones de santé l'épilepsie?
Pas seulement l'épilepsie, pour l'aider, toutes les 36 zones de santé de la province de l'Ituri sont concernées. Et on observe des cas par-ci, par-là, mais des cas qui ne sont pas pris en charge par manque de moyens financiers, parce que ce sont des pathologies dont la prise en charge nécessite des interventions prolongées et ça a un coût socio-économique très élevé. C'est pourquoi des fois les familles ne sont pas en mesure seules d'appuyer ou bien de soutenir la prise en charge de leurs membres de famille atteints de l'épilepsie, soit de la schizophrénie.
Alors, quelles sont les conséquences de ces deux maladies chez l'homme?
Ces deux maladies entraînent tout d'abord la diminution de la productivité. Ça entraîne la diminution de la productivité, ça entraîne aussi l'isolement social, ça entraîne la pauvreté, pas seulement chez la personne atteinte, mais aussi dans toute la famille. Parce que le plus souvent, ces malades sont, pour la prise en charge, sont obligés d'être accompagnés, soutenus. Alors, comme c'est une prise en charge prolongée, c'est toute la famille qui en souffre. Et le plus souvent, les personnes qui sont atteintes de ces différentes maladies sont négligées, considérées comme inhumaines, comme dangereuses. Et le plus souvent, la communauté, par manque de connaissances suffisantes sur ces deux maladies et leurs origines, ils abandonnent ces patients à leur propre sort. Et c'est comme ça qu'ils restent longtemps sans traitement. Donc, ces patients sont victimes de la discrimination, de la stigmatisation, voire même de la violation des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons pensé, quel que soit le manque de moyens, nous avons pensé organiser une activité récréative de l'occasion, sensibiliser toute la communauté de l'Ituri et les autorités politico-administratives, sans oublier les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales et locales, pour appuyer tant soit peu la prise en charge de ces différentes maladies dans notre milieu.
Alors, face à ces tableaux sombres, comment faites-vous pour la prise en charge de tous ces malades ici, sur place à Bounia?
Pour les deux cas, ça nécessite une combinaison de prises en charge pharmacologiques et psychosociales. Alors, ce sont des prises en charge, comme nous l'avions déjà dit, qui ont un coût très élevé, qui ont un coût social et économique très élevé. À notre niveau, nous ne procédons qu'à la sensibilisation et à la conscientisation des décideurs. Mais il y a des structures de prise en charge qui s'en occupent, mais ils sont limités par aux difficultés dues à l'approvisionnement en médicaments et d'autres intrants spécifiques en santé mentale, mais aussi par le plus souvent l'interruption de la prise en charge de certains patients, par manque de moyens pour soutenir une prise en charge prolongée.
Docteur Sephora Nyoni, merci.
Merci beaucoup.
Notre invitée, la responsable du programme national de la santé mentale en Ituri, docteur Sephora Nyoni, s'entretenait à Bounia avec Martial Kizabiamungu. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung et coordonné par Jude Mister Bilanda. Alain Goy, la mise en onde. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.